Chapitre 13. Nous rencontrâmes M. Clérambault sur le pont. Nous n'avions pas à lui apprendre d'où nous venions. Il dit lui-même mon père. « Maintenant que c'est fait, je puis vous confier que par votre démarche, vous avez rendu un fier service à Plancoulen. » Mon père leva les sourcils et jeta son corps en arrière. « Oui, continua Clérambault, Plancoulen est à couteau tiré avec Courtois et ne savait pas à qui confier le soin de ses affaires. « Ah, dit mon père, j'aurais aimé savoir plus tôt que les choses en étaient à ce point. J'eusse fait là-bas meilleure figure. » Ces messieurs s'approchèrent du parapet et regardèrent la maison neuve, qu'on appelait déjà le château moche, et qui s'élevait au bout du pont, presque en face du jardin du presbytère. C'était une construction prétentieuse, avec deux petites tourelles crénelées et une terrasse à balustrade sur la rivière, le tout destiné à imiter et surpasser les agréments de la maison Colliveau. Courtois, dit M. Clérambault, a eu la négligence de laisser construire ces tourelles sans consulter l'état des servitudes. Or, M. Phébus, qui, depuis un an et plus, regarde placidement, de sa barque, pousser le château moche, vient d'élever la prétention d'en faire raser la toiture et les tours, attendu qu'il est propriétaire d'une bicoque située derrière et qui jouit, sur le terrain moche, d'une servitude de non-bâtir. M. Phébus était debout dans sa barque, au pied du mur du presbytère. La flotte de Liège oscillait comme un pendule, scandant la marche infaillible du temps, propice aux haines patientes. Au-dessus de sa tête s'étendait le jardin en friche, où les plantes, les bêtes et un saint homme louaient Dieu. La rivière, sombre et profonde, toujours même et toujours nouvelle, coulait indifférente sous un doux ciel léger, où semblaient volter des jupes de ballerines. Nous continuâmes notre chemin. Je me rappelais le retour de la visite au Plancoulen qui avait marqué le début de notre période de malheur. Le retour d'aujourd'hui en célébrait la clôture. Là-haut, au fin bout de la rue, la maison Colliveau ne représentait plus le but un peu chimérique de nos efforts. La maison Colliveau était à nous. Les passants, les boutiquiers, ne nous regardaient plus comme des gens qui ont eu le front de regimber contre un caprice tyrannique unanimement accepté. Ils nous enveloppaient de cette bienveillance qu'on n'accorde qu'à ceux qui se sont soumis à la loi commune. Nous étions désormais d'accord avec l'opinion publique. Quelque chose, je ne sais quoi, en ma conscience d'enfant, se révoltait contre la platitude de ce résultat. Les péripéties de la guerre me plaisaient mieux que cette médiocre paix. Je regrettais que l'aventure fût finie. Nous montions la grande rue. Je marchais devant mes parents. Ils m'avaient appelé, je ne les avais pas entendus. J'allais toujours, l'esprit perdu dans des imaginations. Le désir autrefois ressenti en montant dans la voiture de mon père, ce désir de fuite éperdu dans l'air libre, au-dessus des toitures, des campagnes, des routes et des rivières, me soulevait de nouveau avec ses suffocations et son vertige. Je voyais la rue qui montait, qui s'arrêtait à la porte aux pattes de biche et aux murs à balustrade de la maison Colliveau, et je voulais que cette rue ne s'arrêtât point, qu'elle crevât la maison Colliveau, qu'elle escaladât la colline, et, par-delà la colline, qu'elle escaladât d'autres obstacles, qu'elle montât plus haut. Je gravissais ses pentes. Je voyais se rapetisser Beaumont, se ratatiner son monde et la maison Plancoulen elle-même devenir quelque chose de moindre qu'une fourmilière. Alors, là-haut, je voyais... Je voyais quoi ? Ah, voilà ! J'avais beau faire effort, être certain que quelque chose apparaîtrait là-haut, un brouillard m'aveuglait. J'arrêtai mes pas réels au milieu de la place devant la statue d'Alfred de Vigny. Ce grand homme de bronze, à la figure étrangère et hautaine, fut le premier objet qui me frappa au sortir de mon rêve. Était-ce lui qui émergeait du brouillard? Était-ce lui qu'on voyait encore quand on regardait de plus haut que la maison Colliveau, de plus haut que la colline et de plus haut que d'autres collines encore? Des voix criaient derrière moi. « Riquet ! Riquet !» Je me retournai. « Riquet ! Mais c'est Marguerite Charmaison ! C'est Marguerite Charmaison !» Je fis à part moi. Ah oui, Marguerite Charmaison, qui cherche depuis plus longtemps que moi. Marguerite Charmaison, qui a eu de plus grands désirs que moi-même. Elle doit savoir, elle, ce que l'on voit quand on s'est donné beaucoup de peine pour monter, pour escalader collines et collines. Riquet ! Riquet ! On te dit que c'est Marguerite ! En effet, Marguerite Charmaison était là. Elle arrivait de Paris. Elle présentait sa mère, que nous n'avions jamais vue à Beaumont. Elle savait déjà que nous venions de chez les Plancoulen et nous en félicitait. Elle dit « J'irai vous annoncer une nouvelle. » D'une jeune fille ordinaire, cela eût signifié évidemment un mariage. Mais de Marguerite, que pouvait-on prévoir avec assurance? Peut-être avait-elle vendu un tableau à l'État ou découvert une nouvelle vocation? Peut-être avait-elle recouvré ses goûts anciens. Elle entrait au théâtre, elle se faisait religieuse, elle décidait de pleurer sa vie entière le souvenir du jeune lord anglais ou du grand cardinal, ou bien elle avait culbuté la philosophie allemande, émancipé le sexe féminin, découvert la formule de l'art. Rien de tout cela ne me paraissait ridicule ni au-dessus des forces de Marguerite. Je résumais mes suppositions en disant « Qu'elle a de la chance, elle a trouvé !»